Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmala. Aujourd'hui, on va parler de l'écrivain George Sand, donc découvrir un peu ce personnage, puisque ce fut un vrai personnage. Et pour ce faire, on retrouve René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, comme annoncé, je vais vous parler de George Sand. Donc, je ferai cette émission en deux parties, puisque là aussi, c'est un personnage très riche, à la vie, on va dire, très aventureuse, voire tumultueuse, et également son œuvre. Son œuvre est très importante, prolixe, on va dire, très abondante, et avec des... comment dire, inégales, très diverses, et qui comportent, comment dire, des fulgurances, plus peut-être encore que son œuvre officielle, entre guillemets, enfin ses romans, parce qu'elle a écrit dans divers domaines, elle a écrit des romans, des pièces de théâtre, des nouvelles, des écrits historiques, je crois même qu'elle a écrit, ça donne une idée de la variété de sa personnalité, même des recettes de cuisine, enfin des ouvrages, car elle était aussi, c'était une grande amoureuse, une aventurière, une femme politique, mais aussi une ménagère parfaite, on va dire, voilà. C'est un personnage très complexe, très contrasté, on va dire. Donc aujourd'hui, je vous parlerai plus spécialement d'un épisode de la vie qui illustre très romantique, c'est que j'intitulerai, ça sera le chronique du jour, Les Amants de Venise. Donc c'est l'idylle entre George Sand et Alfred de Musset, et notamment leur voyage à Venise, qui va se terminer, on va dire, ça sera le paradis et l'enfer, tout en... mêlé, ça commence comme le paradis, et ça se termine un peu en enfer, voilà. Donc, je vais faire aussi une petite présentation de George Sand, qui est-elle, hein, voilà. Donc, elle s'appelle de son nom, c'est un pseudo, George Sand. D'ailleurs, un pseudo qui est, on peut le dire tout de suite, c'est un pseudonyme masculin, qui n'était pas usité à l'époque, au 19e siècle, où elle a vécu. C'était assez rare. Elle a donné d'ailleurs l'initiative, d'autres femmes écrivains ont pris des pseudonymes masculins après elle. Donc Georges, c'est un prénom du Berry, puisqu'elle était dans le Berry à Nohant, hein. Nohant, c'est un peu le lieu, le haut lieu, hein, qui perdure, hein. Il y a le musée Georges Sand, c'était la propriété familiale, le château familial, hein, de sa grand-mère, hein, voilà. Car elle a eu son ascendance côté de sa grand-mère était assez prestigieuse, bien que par la main gauche, on va dire, on y reviendra. Elle descendait de Maurice de Saxe. Maurice de Saxe, donc à l'époque du royaume de Saxe, qui était, en fait, dont la nièce, pour donner une idée, s'appelait Marie-Joseph de Saxe, qui avait épousé le dauphin, le fils de Louis XV, et donc qui était la mère, en deuxième noce du dauphin, la mère de Louis XVI, enfin des Charles X, Louis XVIII, etc. Et donc sa grand-mère était en quelque sorte la cousine, c'était pas en quelque sorte, bien que c'était une enfant adultérine de Maurice de Saxe. C'était donc une parenté, un cousinage glorieux, et donc George Sand et sa petite fille, parce que, eh bien, son père s'appelait Maurice, et donc le fils de la fille donc de ce Maurice de Saxe. Mais George Sand ne s'en vantait pas, parce que elle déclarait elle-même que c'était un franc débauché et qu'il avait plusieurs centaines, probablement, d'enfants adultérins. Donc c'était un sang prestigieux, mais pas rare, si on peut dire. Donc elle s'appelle de son vrai nom. Alors, le pseudonyme, Georges, c'est un prénom du Berry, un prénom classique. Et Sand, on le verra, c'est parce qu'elle a écrit, elle a eu un amant, elle a eu beaucoup, beaucoup d'amants. Hein. Ça, c'est une cohorte interminable, qu'on ne peut pas tous les citer, mais certains très prestigieux, ça, on va en parler. Et elle a écrit à quatre mains, au début de sa carrière, à dire, des articles avec le journaliste Jules Sandeau. Et donc son pseudonyme, voilà, c'était Georges, un prénom basique de son Berry natal, et eh bien Sando, elle a supprimé le E A U, je pense que c'est écrit comme ça, et c'est devenu Georges Sand, prénom masculin, et qui et elle a supprimé le S ensuite. À noter que par exemple en Angleterre, un petit peu à la même époque, mais 14 ans plus jeune, il y avait aussi George Eliot, hein, voilà, qui était aussi une femme romancière célèbre, qui un petit peu, peut-être, je n'ai pas fait d'études comparatives, mais l'auteur du Moulin sur la Crosse, qui était peut-être un peu l'équivalent de George Sand anglais, si on peut dire. Donc, de son vrai nom, elle est Amandine Aurore Lucille Dupin. Et donc, par son mariage, elle va être mariée à 18 ans, elle deviendra baronne Dudevant. Elle épousera Casimir Dudevant. Et donc, elle est née le 1er juillet 1804, donc sous l'Empire. Alors, pour en revenir à sa parenté, c'est quand même important, parce qu'elle a une double ascendance. Alors, je dis, c'était sa grand-mère, qui s'appelait Marie Aurore, fille donc naturelle de Maurice de Saxe, et qui avait épousé donc un Dupin de Franqueuil. Dupin de Franqueuil, voilà, qui était un aristocrate plus âgé qu'elle, hein, qui avait 60 ans, alors qu'elle en avait 30 ans. Donc de cette union est né donc Maurice Dupin de Franqueuil, qui était donc le père, voilà, de Georges Sand. Et du côté de sa mère, alors c'est pas du tout le même. C'était Maurice, donc, de Franqueuil, Dupin de Franqueuil, épouse, c'est une mésalliance, Marie-Victoire de Laborde. Marie-Victoire de Laborde, qui sera donc la mère de Georges Sand. Et alors, elle était fille d'un oiseleur. Et Marie-Victoire, alors là, c'était, on va dire, une dame de petite vertu. C'était une courtisane, mais pas, apparemment, pas de haut vol, hein, voilà. Elle avait des amants, et elle vivait un peu de ses charmes, je pense, voilà. Et donc, c'est cette union, et de cette union naîtra, donc, Georges Sand, voilà. C'est donc déjà très contrasté. Dès sa naissance, il y a le contraste. Donc, je l'ai dit, elle naît en 1804, le 1er juillet 1804, et à Paris. Et donc, la propriété familiale est à Nohant, hein, Nohant dans le Berry. Alors, je vais faire un petit portrait. Donc, son mariage, ça sera à 18 ans, avec le Casimir Dudevant, ça sera plutôt une camaraderie, c'est un mariage arrangé, et on verra qu'ensuite elle aura, alors il y aura une séparation vers l'âge de 25 ans, et qui donnera lieu à plus tard un procès, enfin, parce qu'à l'époque le divorce n'existait pas sous la monarchie de Juillet, et donc c'était une séparation judiciaire, voilà. Et alors elle aura ensuite, je répète, des amants, des amours, une vie tumultueuse. Alors, des amants prestigieux, il y aura Musset, il y aura Chopin, etc. On en parlera, hein, et d'autres. Hein. J'avais peut-être, vous vous souvenez, que dans la série 2014-2015 de nos chroniques, j'avais parlé de Colette. Alors c'est ça, on peut comparer peut-être un peu Georges Sand et Colette. D'ailleurs, quand on pense à l'une, on pense à l'autre. Mais je crois que Georges Sand a eu elle fait partie de la légende, on va dire. Elle a une envergure peut-être plus grande, je pense, que Colette, parce que Georges Sand a été un écrivain, comme Colette, romancière, mais Colette était une romancière. Elle a eu aussi une vie tumultueuse, elle a été une enfant, on va dire un peu une enfant de la balle, enfin, pas vraiment une enfant, mais elle est devenue une saltimbanque, un peu, Colette, avec là aussi des amours tumultueuses, notamment lesbiennes. Enfin, mais Georges Sand, je répète, a une envergure, me semble-t-il, une stature. Alors, je vous fais une présentation avant de parler de cet épisode, Les Amants de Venise. Alors, en tant qu'écrivain, c'est une romancière. D'abord très, très prolixe, je lis au moins 60 romans, et puis alors 70 autres œuvres variées, diverses et variées du théâtre. Elle a écrit des nouvelles, enfin des petits romans, il y a eu des écrits politiques. Et puis son œuvre très abondante est donc assez inégale, hein, mais ce qui est assez caractéristique. Alors un chercheur en littérature, je crois qu'il s'appelait Dupin, Georges Dupin, je sais pas si, si c'est un homonyme, à vérifier. Mais il avait fait des recherches, il a consacré sa vie à cette, c'était un professeur de littérature de fac, et donc il a retrouvé les innombrables courriers, documents de Georges, et il en a fait au moins une dizaine de volumes. Alors c'est une œuvre épistolière, parce qu'elle a écrit des dizaines de milliers de lettres, et puis son journal, enfin ses écrits. Et cette œuvre-là, parallèle, on va dire, dont il a fait le montage, est peut-être plus importante aussi que l'œuvre formalisée, je veux dire, les romans, les pièces, etc. Parce que, eh bien, là, on y trouve des fulgurances, on va dire, du génie. Parce que, en tant qu'écrivain, il n'est pas tout à fait l'égal, par exemple, de Flaubert ou de Balzac. Je pense qu'elle est à un niveau un petit peu inférieur. Alors, je ne sais pas, peut-être Barbey d'Aurevilly, voilà, c'est un écrivain important, mais qui n'est pas tout à fait au niveau des géants que je viens de citer. Hein. Mais cette œuvre, que je viens d'évoquer, qui a été retrouvée après, qui a eu un petit côté presque posthume, eh bien là, elle atteint des fulgurances. Je l'ai dit, ça se touche au génie, et elle atteint le niveau, à certains moments, de Balzac, de Flaubert, etc. D'ailleurs, Flaubert était un admirateur de Georges Sand. Alors, les romans sont très variés, pour aborder un peu l'œuvre. Il y a des romans champêtres, les plus connus, qui se déroulent souvent dans le Berry. Hein. Alors, par exemple, Petite Fadette, La petite fadette, la mare au diable, alors qui n'a pas fait de dictée à l'école primaire sur la mare au diable, hein, voilà, qui sont des œuvres, qui mettent en œuvre, en scène, et ça c'est nouveau, des petites gens, des paysans, des maçons, comme les maîtres sonneurs, etc. Donc, avant, les romans, c'était avant tel, plutôt des personnages, de l'aristocratie, enfin, etc. Voilà. Là, c'est des petites gens, voilà. Il y a aussi, eh bien, outre ces romans dits champêtres, il y a des romans sociaux, alors toujours avec des petites gens. Par exemple, je vais parler des maîtres sonneurs, pour en citer, enfin, Duprat, enfin, je sais plus. Il y en a une liste abondante de toutes ces œuvres. Alors, il y a bien sûr aussi, mais j'en donnerai quelques-unes, alors Indiana, Lélia, hein, c'est des prénoms féminins, voilà. Et, La mare au diable, j'en ai parlé, La petite fadette, là, bon, roman paysan, Les maîtres sonneurs, là, c'est des romans plutôt ouvriers. Elle s'intéresse aussi il y a des romans historiques aussi, Les messieurs du bois doré, qui se situent sous Louis XIII, hein, voilà. Par ailleurs, c'est une féministe aussi, on va dire, mais une féministe avec une spécificité un petit peu, à savoir que, par exemple, en tant que féministe, elle voulait la liberté des femmes, elle a affirmé sa propre liberté, hein, dans sa propre vie, elle a défendu cette liberté, mais elle n'était pas une suffragette, elle ne voulait pas le droit de vote pour les femmes, ça paraît un peu surprenant. Donc je reviens en tant qu'écrivain à cette présentation, donc romans champêtres, socio-historiques, et puis les pièces de théâtre, et donc c'est tous les autres documents que j'ai évoqués, son journal, ses lettres, nombreuses. Alors elle fut aussi une femme politique, on va dire, c'est-à-dire qu'elle était très engagée. Alors elle s'était convertie, on va dire, au socialisme. Enfin, elle était près des pauvres, près du peuple. Et par exemple, lors de la révolution de 1848, qui a renversé Louis-Philippe et qui a instauré la Deuxième République, 1848-1851, donc elle a eu un rôle important, je crois, je le confirmerai, par exemple, elle était lors d'un défilé important, inaugural si on veut dire, eh bien elle était parmi les membres du gouvernement, il y avait des ouvriers aussi, il y avait Louis Blanc, etc., elle était une invitée d'honneur, elle n'en est pas partie, mais elle était au milieu, alors que il y avait un défilé, la foule, et elle était honorée spécialement, je crois sur l'Arc de Triomphe d'ailleurs, voilà. Et puis, Elle a écrit, donc elle avait prêté sa plume à ce gouvernement pour dans des revues, dans des textes officiels. On y reviendra. Et alors, en 1851, alors ça nous ramène à notre chronique sur notre cycle précédent sur Napoléon III. Eh bien, lors du coup d'État du 2 décembre 1851, ce fut assez dur. Il y a eu de la répression, hein, et puis des déportations. On pense en Guyane ou contre les résistants politiques, hein, contre le coup d'État et la dictature qui est instaurée par Napoléon III. Eh bien, Georges va se dépenser sans compter pour sauver ses camarades, on va dire. Elle va, parce qu'elle aura des relations, il y aura des liens spéciaux entre Georges Sand et sa famille, son fils Maurice notamment, et le Second Empire. Hein. Il y aura des liens, elle fera partie du cercle un petit peu relativement proche. D'ailleurs, son fils, elle aura un fils et une fille, hein, Maurice et Solange, et son fils faisait du yacht, je crois, avec le prince Napoléon, plomb, quoi. Il y avait une relation proche. Et dès le coup d'État, lorsque le prince président devient empereur, et elle se dépense au péril de elle-même de sa propre sécurité. Elle s'attend tous les jours à être arrêtée. Et ces démarches qu'elle mène incessamment pour sauver les républicains qui sont menacés, réprimés, elle se coupe aussi parce que de sa famille politique, on la considère comme traîtresse parce qu'elle négocie avec l'ennemi en quelque sorte. Donc c'est cet aspect politique. Et puis en tant que féministe, je l'ai dit, elle défend les droits des femmes. Alors, et puis elle s'affirme, alors là bien sûr c'est par l'image d'Épinal, si on veut dire. Elle prend un habit d'homme, on le sait, lorsqu'elle vient à Paris. En réalité, c'était pas calculé, semble-t-il. C'était parce qu'elle était modeste, elle venait de Nohant. Elle n'avait pas de... C'était pas une fortune considérable. Elle a eu un certain prestige, elle était baronne, et puis séparée. Mais lorsqu'elle va vivre à Paris, et commencer à vivre de sa plume, notamment avec Jules Sandeau, c'est le début de sa carrière journalistique, puis littéraire, donc elle prend un habit de garçon pour peut-être... par mesure d'économie un petit peu, parce qu'il y a les frais de blanchisserie, c'est plus facile de porter des robes de l'époque, hein, des robes de femme. Voilà. Et donc, et puis elle fumera la pipe, elle aura ce chapeau, etc., qui la caractérise. Donc c'est toute cette image qui reste. Et donc nous allons en retrouver, finir un petit peu, évoquer ce portrait très riche, tous ces contrastes, et nous retrouvons dans cette aventure des amants de Venise avec Musset en Italie. Nous nous retrouvons après la pause musicale.